Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série concernant la prière. Ceci est l'étude numéro 4. Nous aurons 4 petits sujets. Premièrement, le secret de la vie triomphante. Deuxièmement, le secret de l'énergie spirituelle. Troisièmement, le secret de la puissance spirituelle. Et quatrièmement, le secret de l'énergie abondante. Chers amis, il nous faut à présent faire mention de la vérité la plus profonde en ce qui concerne la prière. De même qu'elle nous renforce dans la lutte, la prière est elle-même autant de terrain de la bataille que celui de la victoire. Ah oui, voyez-vous, la lutte la plus ardue est souvent celle de la prière parce que la tentation et le péché éloigne tout simplement de la prière. Et si Dieu parvient à nous faire agenouiller, il a d'ores et déjà gagné. Donc, le récit de la vie de notre Seigneur, rappelez-vous, le montre toujours à l'aise lorsqu'il est confronté aux puissances démoniaques, à l'hostilité de la foule, aux pharisiens qui l'interpellent ou aux gouverneurs romains, parce que avant il était à genoux dans la prière. Il n'éprouve aucune gêne en ces instants de tension et de lutte. Il avance et parle avec l'assurance de la victoire déjà gagnée et du succès obtenu d'avance. Cette attitude est flagrante lors de son arrestation. Oui, rappelez-vous, devant le grand prêtre, et puis ensuite devant Pilate. Et vous pouvez noter Saint Matthieu chapitre 26, verset 47, ainsi que Luc chapitre 23, verset 2 à 16. Les moments où il lutte le plus ardemment sont ceux où il prie dans le désert alors qu'il est tenté par le diable. Saint Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Et, sans oublier, sur la montagne, alors que la foule empressée voulait le proclamer roi. Saint Matthieu, chapitre 5. Et ensuite, à Gethsémané, Saint Matthieu, chapitre 26, versets 34 ou plutôt versets 36 à 44. Ainsi également avant son arrestation. Donc, face à la demande et au danger, Jésus-Christ se tient fermement parce qu'il a déjà lutté, il a déjà gagné sur le terrain de combat de la prière. Lorsque Jésus-Christ s'est rendu au tombeau de Lazare, grondant de nouveau en lui-même, notez Saint Jean chapitre 11, verset 38, il a dit en levant les yeux vers le haut, « Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. » Saint Jean chapitre 11, verset 41. Le contraste le plus saisissant est mis en exergue par la différence entre la puissance assurée de Jésus-Christ dans la cour de Pilate face à la foule vociférante et son agonie sous les arbres, ainsi après dans les ténèbres et au jardin de Golgotha. Voyez-vous, chers amis, avec Jésus-Christ, la bataille semble gagnée avant même qu'elle commence. Oui, elle est gagnée d'avance dans la prière. Et là, on peut dire tous ensemble Alléluia. Ça n'a pas l'air uniquement pentecôtiste. Alléluia, c'est pas défendu. Et croyez-moi, le diable n'aime pas entendre cela, même si c'est dans une église classique, protestante ou catholique. Pour nombreux d'entre nous, cette vision du véritable rôle de la prière dans la lutte spirituelle revêt une importance spécifique sous tous aspects. Et on peut dire ceci, nos combats les plus ardus et les plus longs concernent rarement des circonstances. Je répète, ils concernent rarement des circonstances, rarement des tentations, car le monde ou nous-mêmes, ils se rapportent tout simplement à la volonté de Dieu. On peut répéter cela. Donc, nos combats, qui sont les plus ardus et les plus longs, concernent rarement les circonstances, les tentations ou le monde ou nous-mêmes. Mais ils se rapportent tous à la volonté de Dieu. Donc notre confusion et notre trouble proviennent non pas du fait que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, mais du fait que nous la connaissons et que nous ne la désirons pas, même si nous tentons de nous persuader que ce n'est pas le cas. Le conflit ne cesse que lorsque nous avons véritablement solutionné le problème de notre obéissance et de notre soumission. Voyez-vous, nous avons, pour la plupart, expérimenté ce genre de situation. Luttant avec Dieu dans la prière, nous parvenons à la crise déterminante où, réalisant les intentions de Dieu et ce qu'elles impliquent, nous devons soit les accepter, soit les rejeter. L'acceptation permet de vivre le triomphe intérieur qui nous donne le courage et l'endurance capables de supporter absolument tout ce qui va arriver. Et cette victoire décrochée, elle est donc, selon un certain conflit extérieur, et elle ne peut plus nous effrayer. Nous avons désormais la certitude d'avancer, et pas de reculer, mais d'avancer d'un pas assuré. Le conseil de combattre le beau combat de la foi sous-entend probablement que le combat chrétien est une guerre. Oh oui, elle est carrément une guerre dont l'arme devra être notre foi. Mais il est tout aussi vrai que la véritable lutte spirituelle est souvent une lutte pour conserver la foi et pour se saisir de la vie éternelle et ne plus jamais la lâcher. La Bible nous dit « Combat le beau combat de la foi et saisis-toi de l'éternel ». De l'éternel, donc, la vie à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as professé la belle profession devant de nombreux témoins. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Nous pouvons répéter cela, c'est important. La Bible dit « combat simplement ». Le beau combat de la foi, saisis-toi de l'éternelle vie, de cette vie à laquelle tu as été appelé et aussi pour laquelle tu as professé la belle profession devant de nombreux témoins. On peut donc professer une foi chrétienne tout en ayant écarté depuis longtemps, depuis fort longtemps, la véritable confiance en l'orientation de Dieu pour sa propre vie. Et oui, pour sa propre vie, en ayant délaissé malheureusement le vrai plaisir d'une confiance absolue. Le vrai plaisir d'une confiance absolue. L'incrédulité peut se glisser indicieusement dans l'âme qui est confrontée à l'adversaire, qui est confrontée à la frustration ou à la déception. L'incrédulité naissante peut être la source d'une désillusion, une désillusion inavouée, et priver l'âme de la reconnaissance et de la louange, et ainsi la priver de la vigilance, de contentement et d'influence sur autrui. Personne, chers amis, n'est totalement à l'abri du danger d'un cœur mauvais et incrédule. Moi non plus. La Bible dit « Prenez garde, frères et sœurs, qu'il n'y ait en quelques-uns de vous personne avec un cœur mauvais et incrédule qui s'écarte du Dieu vivant. » Hébreux chapitre 3, verset 12, selon la version allemande. Pour bien mener la lutte de la foi, il faut combattre en la présence de Dieu. Et à des niveaux moins élevés, il existe une place pour l'argumentation à propos des bases de la foi, la preuve d'expérience religieuse, le témoignage historique et les empreintes du Créateur dans le monde de la nature. Mais dans ce cas, l'homme ne peut trouver la paix de l'assurance spirituelle qu'en suivant le chemin tracé. Il y a fort longtemps que ce chemin a été tracé par l'auteur du psaume 73, le chemin du mécontentement plaintif, passant par le cynisme et la mise en doute de la justice de Dieu, et ceci jusqu'à parvenir à la confiance et à la joie. Je répète, dans ce cas, l'homme ne peut trouver la paix de l'assurance spirituelle qu'en suivant le chemin qui est déjà tracé. Tracé il y a fort longtemps, et ceci par l'auteur du psaume 73, donc le chemin du mécontentement plaintif passant par le cynisme et par la mise en doute de la justice de Dieu. Et ceci jusqu'à parvenir à la confiance et à la joie. Écoutez simplement le roi David. Ah oui, le roi David. Pour un peu, dit-il, mes pieds déviaient, et pour un rien, mes pas glissaient, envieux, dit-il, que j'étais des insensés. En voyant la paix des méchants, jusqu'à ce que, pénétrant dans les sanctuaires de Dieu, j'ai enfin discerné leur fin. J'ai enfin discerné leur fin. Oui, j'étais donc stupide et je ne comprenais pas. Psaume 73, versets 2 à 3, ainsi que le verset 17 et le verset 22. Donc, l'homme ne trouvera les réponses les plus profondes et ne résoudra ses doutes avec certitude qu'en élevant ses craintes et ses doutes vers qui ? Vers Dieu, et en implorant sa merveilleuse miséricorde. On peut dire « Alléluia ». Et c'est probablement le conflit le plus douloureux auquel le chrétien d'aujourd'hui doit faire face. Dieu est son seul interprète et la prière est sa seule volonté à comprendre et la confiance en est l'articulation. Et la confiance en est l'articulation. Car la foi ne se trompe jamais. En effet, tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la victoire qui a vaincu le monde par la foi. 1er épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 4. Donc, la foi inspirant une prière pour affermir sa foi est déjà une foi qui triomphe sur le doute. Je répète, la foi inspirant une prière pour affermir sa foi est déjà une foi qui triomphe sur le doute. Ainsi, centrée entre l'obéissance et la foi, la prière n'est plus exactement une préparation pour le combat, mais c'est le chemin de bataille en soi et en plus la forme de la victoire et en plus la forme de la victoire. Christ nous a appelés à triompher. Le secret simple et suffisant de cette vie triomphante, c'est quoi ? C'est la prière. Deuxièmement, nous avons le secret de l'énergie spirituelle. Le docteur Graham en a fait une éclatante démonstration car il a dit ceci. Il est inévitable que le chrétien sincère s'interroge sur le secret de cette manifestation et étonnante, qui est la puissance spirituelle. De nombreuses explications ont été avancées. Les unes s'attardent avec persistance sur l'esprit qui se fait l'écho de la vérité et l'autre provenant de l'évangéliste en personne. C'est uniquement à cause de la prière, oui, la prière de tous ceux qui, aux quatre coins du monde, prie en ce moment pour nous, que nous sommes, chers amis, protégés par des anges et encouragés par l'Esprit Saint. L'Évangile peut encore être annoncé, peut-être en raison du fait qu'elle a fidèlement reproduit une expérience antérieure, celle de ceux qui était au centre du réveil spirituel au début de ce siècle. Et à cette époque, on pouvait donc assister à des scènes étonnantes. La réforme d'individus ou de régions absolument entières, la destruction de penchants maléfiques et l'appel aux âmes et l'embrasement des églises mortes depuis fort longtemps, ainsi les soubresauts de l'âme d'un peuple profondément religieux. Et ce cas a également été expliqué par la réunion de plusieurs pasteurs priant pour eux-mêmes et pour leur peuple. Ils ne priaient pas ensemble, mais éparpillés ça et là et au même moment, sans d'abord se connaître. Et puis ils se sont donc regroupés, et là, la puissance est venue. Gloire à Dieu. Donc, la revivification de nombreux groupes chrétiens vers la fin du XIXe siècle s'est faite avec moins d'émotion, de façon plus ardue et plus coûteuse. Jonathan Edwards a d'abord commencé à secouer les églises de la Nouvelle-Angleterre en introduisant un livre sur les expériences de prière des premiers émigrants puritains. Et Saint John Erskine résidant loin de là, en Écosse, l'a lu et il a envoyé des quantités de livres à ses amis disséminés en Angleterre et a glissé une copie du livre d'Edward dans un paquet adressé au pasteur Ryland dans le Northamptonshire. Malheureusement, Ryland, n'ayant pas eu le temps de le lire, l'a fait parvenir au pasteur Sutcliffe. Et ce dernier a ressenti une très vive émotion à sa lecture. Il a donc entrepris de partager son trésor en lisant simplement de longs extraits, écoutez bien, en lisant simplement, je dis bien, de longs extraits du livre aux réunions de prière qui se déroulaient dans son église. Ce que des pasteurs tels que Reichenbach et d'autres peuvent aussi faire. Il est donc ensuite arrivé une foule d'événements. Oui, tout d'abord, voyez-vous, cette petite ville de province s'est éveillée à une ardeur et à une puissance fort remarquable et à une vie spirituelle encore plus profonde. Ensuite, Sutcliffe a ressenti le besoin de présenter à ses collègues et à leurs églises la grande nécessité de prier. Il a parcouru toute la région du Northamptonshire, remportant un vif succès. Et plus tard, des groupes de prière dirigés par des pasteurs se sont constitués un peu partout. Ensuite, encore plus tard, les églises du comté voisin, puis une confession voisine, ont emprunté la lettre circulaire de prière et du livre, ainsi même des cassettes, car donc nous savons que le système des cassettes, j'en sais quelque chose, puisque il y a plus de 50 ans, j'avais fondé une mission sur cassette. Donc le mouvement de prière, chers amis, il s'est répandu très rapidement, allant du pays de Galles jusqu'à au nord en Écosse et encore ensuite en 1960, partout l'expérience s'est reproduite. L'appel à la prière générait donc une nouvelle ardeur remarquable et une intensification de la puissance spirituelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas du tout là. Moins de 10 années plus tard, les fruits ont donné, alors que la contagion se propageait encore, le groupe original de Northampton, priant toujours, a été amené à créer la première société entièrement dédiée à la propagation de l'Évangile. Oui, et 12 ans plus tard, 5 grandes associations missionnaires se sont constitués, et ceci malgré que de fâcheux différends divisant les frères et sœurs ont donné lieu à une discussion heureusement raisonnable et qui a dissipé toute dissension uniquement due à la prière ensemble. L'attention croissante, la ferveur toujours plus vive dans le pays de départ, était également une ferveur pour ceux qui étaient engagés à l'étranger. Et certaines choses, depuis longtemps recherchées, se sont mises à se produire toutes seules. Et la puissance constructive de la prière apparaissait de nouveau au sein de l'Église de Jésus-Christ. Donc, l'appel à la prière avait été fructueux d'une manière spectaculaire et totalement inattendue. Chaque renouveau, chaque réveil spirituel de l'Église suit le même processus. Il y a donc d'abord le temps de la prière. Ensuite, le baptême de la puissance dans laquelle est née l'Église. Parce que les hommes prient, Dieu exécute. Je dis, parce que les hommes prient, Dieu exécute, Dieu répond. Il est donc notoire que l'habitude de la prière constituée et ferme marquait déjà les réunions de l'Église avant le jour de la Pentecôte, car tout cela, rappelez-vous, d'un commun accord, ça c'est important, était assidu à la prière. Actes chapitre 1, verset 14. Et après cet événement, elle a été assistée du Saint-Esprit dans les diverses tâches qui l'attendaient. On sait également que dès que la menace de la persécution a pesé sur elle, elle s'est de nouveau réunie pour la prière et a expérimenté un deuxième épanchement de l'Esprit Saint. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils se trouvaient assemblés fut ébranlé et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Actes chapitre 4, verset 31, et cette fois, ils étaient armés, oui, armés, pour la lutte contre leurs opposants. Donc l'histoire apostolique s'est ainsi poursuivie, gloire à Dieu, et de grandes choses surviennent, et on gagne de grandes choses, des choses tout à fait disproportionnées par rapport au nombre et aux ressources humaines des premiers chrétiens. Comme par la suite dans l'histoire de l'Église, comme de nos jours actuels, le mot « prière » ne faisait qu'indiquer la façon humaine d'orthographier le mot « puissance ». Je répète, comme par la suite dans l'histoire de l'Église, comme de nos jours actuels, le mot « prière » ne faisait qu'indiquer la façon humaine d'orthographier le mot « puissance ». Numéro 3, nous avons le secret de la puissance spirituelle. Chers amis, il nous incombe tous de comprendre en quoi consiste précisément cette puissance spirituelle. Il est trop facile de la concevoir en des termes d'émotion éveillée et d'enthousiasme enflammé. C'est probablement une partie chaleureuse et nécessaire de l'expérience, évidemment. Mais il est vrai également que les disciples ont été remplis de joie et de grâce, d'allégresse et de zèle lorsque l'Esprit Saint est descendu sur eux. Et tous furent remplis d'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit Saint leur donnait de prononcer. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Mais la puissance spirituelle est différente de la vie émotionnelle. Je répète, la puissance spirituelle est différente de simplement une vive émotion. Et les deux ne vont pas forcément ensemble. Le mot « énergie » est peut-être mieux adapté car à l'agitation émotive s'ajoute une certaine énergie, une impulsion dynamique à sortir, pas seulement à sortir, mais à agir, à prêcher que seul reçoit qui seul reçoit le cœur, l'âme et l'esprit qui prie. Je répète, que seul reçoit le cœur, l'âme et l'esprit qui prie. Saint Pierre et saint Jean remplissaient Jérusalem de leur doctrine. Ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus, Actes chapitre 5, verset 42. Ils étaient véritablement poussés à agir par l'Esprit Saint. Une foi énergique, adjointe à la poussée morale et à la puissance spirituelle, permettait de concrétiser les visions enflammées de l'Église lorsque elle cherche de tout son cœur son Seigneur dans la prière. Et cette ardeur et ce zèle exigé ont, dans le Nouveau Testament, certaines spécificités dont l'une est simplement la liberté. La prière a littéralement libéré quoi ? Libéré les serviteurs de l'Évangile. La délivrance de l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 12, versets 6 à 10, et la libération par le tremblement de terre de l'apôtre Paul et de Silas à Philippe, notez Actes chapitre 16, versets 25 à 26, sont donc arrivées toutes les deux, en réponse, évidemment. En réponse de quoi ? En réponse aux prières. Et oui, l'importance littérale est donc évidente. Les autorités de Jérusalem constataient une telle assurance chez saint Pierre et saint Jean qu'elles ont été amenées à revoir la question du traitement des apôtres. Remarquant l'assurance de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean, et comprenant que c'était des illettrés, ah oui, ils ont bien compris, ils savaient que c'était des gens simples, même des illettrés, et donc des gens tout simples, comme la plupart d'entre nous, ils étaient dans l'étonnement les autres. Vous pouvez noter Actes chapitre 4 verset 13. Donc, la jeune Église, elle priait pour que cette assurance, qui n'est qu'une contrepartie spirituelle de l'ouverture des prisons, puisque persister en assurance, Pierre et Jean, et maintenant le Seigneur, il considère leur menace et donne à tes esclaves, à tes serviteurs, d'annoncer maintenant la sainte parole avec une entière assurance. Ça vaut la peine de répéter. Et maintenant, Seigneur, considère leur menace. Ils étaient environnés de haine. Et donne à tes esclaves, c'est-à-dire à tes serviteurs, d'annoncer ta sainte parole avec une entière assurance. Et quand ils eurent prié, eh bien le lieu, on a déjà dit, où ils se trouvaient assemblés, a été ébranlé. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec respect et avec assurance. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 29 et 31. Oui, chers amis, seule la prière peut accorder cette libération psychologique propre à gommer carrément toute entrave au vrai témoignage et à relever le défi. Naturellement, il est facile de la simuler par l'arrogance, par exemple, par l'orgueil, mais la liberté chrétienne marquant la véritable force spirituelle parvient à combiner l'audace pour Christ avec la véritable humilité naturelle, je répète, même si on a de la peine à le croire. La liberté chrétienne marquant la véritable force spirituelle, c'est pas seulement l'orgueil et l'audace, elle parvient à combiner cette audace pour Christ avec la véritable humilité naturelle. C'est un mélange unique qui prouve l'action des forces divines. Il est notable qu'un combattant aussi valeureux que l'apôtre Paul ait demandé aux Éphésiens de prier pour entretenir son courage. Il leur a dit « Pour moi aussi, priez, afin qu'ouvrant la bouche, il me soit donné de parler pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. » Éphésiens chapitre 6, verset 19. La clarté de la parole dépend en effet autant de l'absence de crainte que de la lucidité de l'esprit. La même idée est exprimée dans l'appel aux Colossiens où il est dit « Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je le manifeste comme je dois en parler. » Colossiens chapitre 4, versets 3 et 4. Donc, séjournant dans la ville de Philippe, l'apôtre Paul avait constaté que le lieu de prière était propice, très propice, aux occasions de l'évangélisation. La Bible dit « Et le jour du sabbat, nous sortîmes hors de la porte, près d'un cours d'eau, où nous croyions qu'il y avait un lieu de prière. Et nous nous assîmes et parlâmes aux femmes qui s'étaient là réunies. » Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 13 et 14. Un jour que nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python vint au-devant de nous. Actes, chapitre 16, verset 16. Il peut cependant arriver que l'occasion soit infructueuse si le cœur du messager n'est pas prêt, je répète. Il peut arriver que l'occasion soit infructueuse si le cœur du messager, ça peut être moi, n'est pas prêt, n'est pas tout à fait en ordre. Bien qu'une porte me fût ouverte dans le Seigneur, je n'eus pas l'esprit en repos et je pris donc congé d'eux. Nous est-il dit clairement dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 12 et 13. Oui, la prison ouverte, la bouche ouverte, la porte ouverte sont toutes liées à l'assurance qui marquait le témoignage apostolique pour Jésus-Christ. Toutes avaient leur origine dans la prière continuelle pour l'Évangile. Le deuxième signe distinctif de la puissance spirituelle était l'autorité. Les premiers chrétiens sortaient de leur réunion comme des personnages dont la parole était importante. Et cela était évident surtout dans leur ministère de guérison. Et cela était également évident dans l'effet de leur message sur leurs auditoires, leurs persécuteurs, ne pas oublier, et leurs adversaires. Mais ces adversaires n'étaient pas de force à résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait, nous est-il clairement démontré dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 10. Je répète, donc nous savons qu'il y avait les adversaires, il y avait tous ceux qui étaient contre, mais ses adversaires n'étaient pas de force à résister à la sagesse et à l'esprit par lequel ils ont parlé. Donc, les messages des apôtres étaient vraiment délivrés avec une telle puissance que la vérité de Dieu sortie de leur bouche produisait carrément la conviction et la conversion. Ils ont ainsi maintenu leur ministère essentiellement dans la nécessité et la prédominance de la prière et de la parole de Dieu. Ça vaut la peine de répéter. Ils ont ainsi maintenu leur ministère essentiellement par la nécessité et la prédominance de la prière et de la parole de Dieu. Pour nous, nous serons assidus à la prière et au service de la parole. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 4. Ils ont toujours refusé de délaisser ces tâches pour des missions de moindre importance. L'apôtre Paul a demandé aux Thessaloniciens de s'unir, pas de se séparer, mais de s'unir dans la prière afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1. Ce n'est donc que dans le contexte d'une assemblée ou d'une église en prière que l'autorité divine inhérente à la parole de Dieu se manifeste et que la puissance du Saint-Esprit et de la parole de Dieu se ressent. Une fois de plus, cette autorité émanant de la prière est liée d'une manière naturelle et répétée à l'ordination des serviteurs de Dieu. On présenta les malades aux apôtres. Je répète, on présenta les malades aux apôtres qui, après avoir prié, imposèrent les mains sur eux. Et l'imposition des mains symbolisait l'octroi au messager de l'autorité instituée que les apôtres possédaient donc les dons du Saint-Esprit et qu'ils deviennent ainsi leur porte-parole. Je répète, l'imposition des mains symbolisait l'octroi au messager de l'autorité instituée que les apôtres possédaient donc ainsi les dons du Saint-Esprit et qu'ils deviennent leur porte-parole. De la même façon, l'assemblée en prière, elle demandait que le messager reçoive cette autorité divine élevée afin que sa sainte parole se manifeste, oui, que se manifeste vraiment avec puissance, comme un message de Dieu aux hommes. Donc, l'essentiel de la puissance spirituelle réside dans cette autorité divine inhérente au message et qu'il se manifeste puissamment par l'effet du message sur l'auditoire. Notez bien que ce ne sont pas les genres de résultats mesurables dans le monde qui constituent le succès, mais ce sont plutôt des vies qui sont changées, souvent des miracles de grâce discrets, inconnus et non médiatisés. Le nombre même de gens transformés au cours de l'histoire de la jeune Église ne cesse de nous étonner. Le jour de la Pentecôte, les résultats de l'ensemencement, long et patient, effectué par Jésus-Christ en Galilée, en Samarie et à Jérusalem, ont été récoltés. La croissance rapide de toutes parts effarait carrément les autorités de la capitale. La rapidité et le triomphe de la parole de Dieu se manifestaient par la dynamique de l'action. Ne pas dormir entre deux palmiers sur un hamac au bord de la mer arrivée. La rapidité et le triomphe de la parole de Dieu se manifestaient par la dynamique de quoi ? De l'action. La parole du Seigneur croissait donc et elle se multipliait, selon Actes chapitre 12, verset 24. Et beaucoup de Corinthiens qui entendaient, croyaient et étaient baptisés. Actes 18, verset 8. D'autre part, l'Esprit Saint communique, communiquant par la prière avec les convertis, constituait également une preuve flagrante de l'efficacité du ministère, et il recevait l'Esprit Saint, selon Actes chapitre 8, verset 17. L'élan de vie abondait dans cette église naissante et des manifestations stupéfiantes comme la résurrection de Tabitha. Oui, et tout cela a prouvé indiscutablement que Dieu était à l'origine de ce grand miracle. Et on peut dire que l'apôtre Pierre, se tournant vers le corps, il a dit d'Habita, allez, debout. Et celle-ci ouvrit les yeux et voyant l'apôtre Pierre, se mit sur son séant et il la leur présenta vivante. Actes chapitre 9, verset 40 et 41, c'est pas moi qui le dis. Il reste que la vie de prière restait invariablement le fil conducteur de l'Église, je répète, il reste que la vie de prière restait invariablement le fil conducteur de l'Église. En dernier lieu, il nous faut mentionner une autre marque de ce zèle et de cette énergie d'origine divine, dont les premières communautés chrétiennes étaient imprégnées et qui étaient visibles. C'était, voyez-vous, son endurance héroïque. L'endurance, la volonté, la discipline. Et dans ce même secret de la prière, la jeune Église a puisé une énergie capable de résister et de survivre au pire traitement édicté par Jérusalem et de Rome, menacée, emprisonnée, battue, avertie d'un traitement ultérieur encore bien plus terrible, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu. Acte 4, verset 24, et ceci pour implorer le Seigneur. Le renforcement de l'opposition a suscité une exaltation croissante puisqu'ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes d'être traités avec beaucoup de mépris pour le saint nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 5, verset 41. Ils étaient donc ancrés sur le fait que tous ceux qui veulent vivre pieusement, fidèlement en Christ Jésus, seront persécutés tôt ou tard. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Et que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, verset 22. C'était donc uniquement l'adage de leur foi et pas de leur désillusion, mais par la foi véritable. Analysez ainsi, chers amis, et selon les parties dont elle est constituée, la dynamique divine qui a saisi et poussé l'Église apostolique pourrait sembler avoir perdu une grande partie de la lumière et de la joie, de l'ardeur et de la vive, on peut dire, de la vive émotion qui anime le Nouveau Testament. Mais il n'en est rien, tout simplement, car l'énergie que possédaient ces premiers chrétiens était une chose heureuse. C'était pas avec la tête baissée, elle était une chose heureuse. Néanmoins, elle était beaucoup plus profonde et permanente qu'un élan de joie enthousiaste, simplement de passage. Ils étaient libres et ils étaient hardis. Ils pouvaient parler, agir, car ils étaient investis de quoi ? Ils étaient investis, écoutez bien, de l'autorité divine. Je répète, ils étaient investis de l'autorité divine. Ça change tout. Ils ont accompli beaucoup de choses autour d'eux. Ils ont vu des portes s'ouvrir. Et lorsque l'affliction et l'adversité les ont menacés, ils ont trouvé le courage de persister sans crainte dans leur voie. Et à longueur de temps, leur cœur débordait, leur vie était radieuse, leurs esprits étaient enflammés et enivrés de l'expérience nouvelle et merveilleuse. Et du point de vue divin, en ce qui concerne la théologie, on pense à la puissance du Saint-Esprit. Du point de vue humain et expérimenté, la puissance de la prière est décrite comme étant la source et l'outil d'une activité soutenue dans les choses de Dieu. Ceux qui priaient puissent vraiment, puissamment et vraiment de toute la puissance en Dieu. Là, notre capacité vient en effet de Dieu. Quand nous pouvons prier d'une façon puissante et de tout notre cœur, alors notre capacité vient forcément de Dieu par l'Esprit Saint. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Ainsi que le renouveau qui liait leur vie à la puissance abondante de Dieu, car même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je répète, car même si notre homme extérieur se détruit, alors notre homme intérieur, il se renouvelle de jour en jour, selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Et pour terminer, quatrièmement, nous avons le secret de l'énergie abondante. Oui, les faits que nous avons décrits concernant aussi bien l'Église que les mouvements modernes de l'Esprit Saint se situent au niveau de la vie chrétienne du monde et de l'histoire. Cela induit que les forces spirituelles sont des énergies fondamentales, éternelles et invincibles, donnant forme au destin. Consciemment ou non, l'âme qui prie assume de grandes choses, que Dieu est vraiment puissant, que le monde et l'histoire ne se limitent pas à des cercles matériels fermés, naturels ou économiques, et que les facteurs spirituels, les facteurs de qualité personnelle, morale, intellectuelle et religieuse, y compris la prière, sont des éléments décisifs dans le développement de l'expérience humaine. Il assume que Dieu n'est pas exclu de son propre monde, mais qu'il aura ce qu'il veut et que cette volonté sera la bonne. Voyez-vous, chers amis, dans son imaginaire, l'homme en prière est convaincu qu'autour de lui, des énergies spirituelles latentes entrent en activité dès que l'individu s'y ouvre. La création divine agissant par l'arrière, au-dedans et au travers. Elle est un vaste réservoir, un réservoir de puissance divine à la disposition des desseins divins. Il suffit donc de s'y laisser prendre. Oui, en effet, la prière est le moyen de se laisser prendre. Ne croyez-vous pas? Il ne s'agit pas du fruit de l'imagination exubérante, de quelques-uns. Hein? Ce n'est pas simplement en étant exubérant et en criant comme des putois que Dieu nous entend le mieux. Voyez-vous, une mère d'une famille qui était submergée de travail, elle était mal alimentée et on peut se sentir à bout de force lorsque, en plus, l'un de ses enfants tombe encore malade. Mais elle fera alors une preuve. Elle fera la preuve, malgré tout, d'une très grande résistance morale et physique. Elle déploiera des trésors de patience, de générosité, d'ingéniosité et d'endurance que personne n'aurait soupçonné et qui, en effet, n'existait pas auparavant. Oui, chers amis, d'où a-t-elle tiré cette force? Quelle est cette énergie spirituelle étrange, ce déploiement de courage, de foi, d'espérance, de résolution qui émerge en cas d'urgence et se manifeste par l'amour? Entre nous soit dit, croyez-vous vraiment qu'à l'âge de 80 ans, avec un canal lombaire coincé, qui non seulement occasionne des douleurs du dos très peu sympathiques et empêche de dormir, il me serait possible de vous transmettre ces études 100% bibliques sur une base purement humaine, mais jamais, jamais, car sans l'intervention du Saint-Esprit à qui je dois tout, ainsi à Jésus-Christ, qui permet cet immense cadeau pour vous servir et pour vous nourrir spirituellement, ce serait tout simplement impossible. Car sans l'amour et sans la compassion de Jésus-Christ, le Tout-Puissant Fils de Dieu, je serais, croyez-moi, certainement, à l'heure actuelle, en train de pourrir dans un asile de vieux, avec un Alzheimer qui ne me permettrait même pas de me souvenir qui je suis, ni de me souvenir de mon tout-puissant Seigneur et Fils de Dieu et Roi des Rois. Avant de terminer par la prière, chers amis, sachez bien et souvenez-vous que la prière, ce n'est pas de l'autosuggestion. En effet, la libération des énergies intérieures n'a lieu qu'au moment où celui qui prie croit simplement et très sincèrement et qu'il lui arrivera plus encore. Il doit donc croire que la prière noue de véritables contacts avec des énergies extérieures dans la puissance, la grâce, la sagesse et l'amour de Dieu. Sinon, rien peut se produire. Je répète, croyez de tout votre cœur qu'il arrive et il doit donc croire, nous devons croire, chers amis, ensemble, que la prière, elle noue de véritables contacts avec des énergies extérieures, ça c'est vrai, et également dans la puissance, la grâce, la sagesse et dans l'amour de Dieu. Sinon, rien ne pourra se produire, rien ne pourra se réaliser si cela peut se produire entre humains. Pourquoi pas entre les hommes et Dieu, hein? Pourquoi pas entre notre esprit et l'Esprit Saint éternel, hein? Donc, chers amis, lorsque l'homme prie, il apporte le cruchon de son âme au puits d'où il a tiré sa vie, pour qu'il soit de nouveau rempli, pour qu'il soit de nouveau renouvelé, rafraîchi à la source de toute énergie et de toute puissance. Comme les torrents en été, les lits demi-taris montent soudainement, et ceci bien que le ciel reste sans nuages, car la pluie est tombée bien loin de leur source. Ainsi, les cœurs qui s'affaiblissent se remplissent jusqu'à être submergés. Je répète, ainsi les cœurs qui s'affaiblissent se remplissent jusqu'à être submergés, et ceux qui s'en aperçoivent s'étonnent et ignorent que Dieu a leur source plus près que vous ne le pensez. Avant de terminer par la prière, rappelez-vous toujours que lorsque l'on prie, eh bien, la puissance, l'énergie, le courage et l'espérance se raniment, et ceci venant de l'intérieur et d'au-dessus de l'homme en prière, les marées spirituelles couleront à flot. On est donc revivifié. Et quand le pouvoir de la prière est partagé dans la communion avec un autre cœur en prière, alors, croyez-moi, tout, absolument tout peut arriver. Ça, vous pouvez le croire absolument. Donc, la prière signifie la puissance. Elle invite les impuissants, les faibles, les incapables, les apeurés, et elle leur offre une occasion glorieuse. Le courant divin recharge les piles mortes de l'âme et la vie rayonne à nouveau. L'âme palpite à nouveau de zèle, de résolution et de volonté à atteindre son but. Donc, la prière, ainsi que le démontre l'expérience de tous les saints, c'est le secret de l'énergie abondante. Nous allons terminer par la prière.